Bonjour Guillaume Larrivé.
Bonjour.
Vous aviez reproché au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb de ne pas être à la hauteur de la situation lors du passage de l'ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Est-ce que vous pensez que pour Maria, cet ouragan qui va passer dans quelques instants sur la Guadeloupe, toutes les mesures nécessaires ont été prises ?
Je veux dire d'abord la préoccupation qui est la mienne, comme celle de l'ensemble des Français à l'endroit de nos compatriotes de la Guadeloupe. Je veux croire, j'espère que cette fois, le ministre de l'Intérieur aura su mobiliser tous les moyens de l'État pour mieux protéger la population. Il est vrai qu'en Guadeloupe, il y a sans doute plus d'expérience de l'organisation et de la prévention face à de tels événements. J'espère que le ministère de l'Intérieur est aujourd'hui vraiment en alerte.
Vous êtes très critique, Guillaume Larrivé, sur le projet de loi antiterroriste qui a été examiné la semaine dernière en commission à l'Assemblée nationale. Pour vous, vous le dites dans ces termes, ce projet de loi va faire baisser le niveau de protection des Français. Pourquoi ?
Oui, je suis très inquiet. Pour la première fois depuis plusieurs années, j'ai la conviction que ce projet de loi sur la sécurité qui est présenté par Emmanuel Macron et Gérard Collomb diminue le niveau de protection des Français. Nous faisons face, nous en France, à une accélération et une amplification de la menace terroriste islamiste. Chaque semaine, l'Europe est frappée par une attaque ou par une tentative d'attentat. Dans ce contexte, il me semble qu'il ne faut surtout pas baisser la garde. Et j'ai la conviction que Emmanuel Macron se trompe lorsqu'il veut sortir de ce qu'on appelle l'état d'urgence. Je crois
Alors vous dites même qu'il ne faut pas en sortir, mais même le renforcer.
Je crois au contraire que nous avons besoin d'un vrai état d'urgence au plan juridique, au plan opérationnel, au plan budgétaire, jusqu'à ce qu'on gagne la guerre contre le terrorisme islamiste. Et j'ai donc fait, avec Éric Ciotti, un certain nombre de collègues députés républicains, des propositions. Nous avons déposé une trentaine d'amendements pour renforcer les pouvoirs des préfets, des policiers, de l'autorité judiciaire également, pendant cette période d'état d'urgence. Et le texte présenté par le gouvernement ne me convient pas. On pourrait donner des exemples très précis.
On va parler notamment de l'assignation à résidence, mais vous dites jusqu'à ce qu'on ait gagné cette guerre contre le terrorisme islamiste. On n'est pas dans une guerre conventionnelle. Il n'y aura pas d'armistice. Donc à quel moment pourra-t-on dire on l'a gagné cette guerre ?
On n'est en effet pas dans une guerre conventionnelle et c'est pour ça qu'il ne faut pas, en 2017, reproduire les schémas passés. Il nous appartient à nous, il appartient à notre génération d'inventer des moyens d'action juridiques, opérationnels, permettant de faire face à la menace d'aujourd'hui et permettant d'anticiper les menaces de demain. Ma conviction, c'est que dans le cadre de l'état de droit, nous avons le devoir de renforcer des instruments juridiques qui permettent au ministère de l'Intérieur, au préfet, mais aussi à l'autorité judiciaire, de mettre hors d'état de nuire des individus qui veulent nous détruire. Et je vous le dis, Frédéric Rivière, dans le respect des libertés des Françaises, des Français, des étrangers résidant en France également, qui vivent de manière paisible et qui aspirent à la tranquillité. Moi, je suis pour le renforcement de l'état d'urgence qui restreint évidemment les libertés de ceux qui menacent nos libertés. Ça ne restreint pas les libertés des honnêtes citoyens. Vous et moi, dans la vie courante, on n'est pas entravé par l'état d'urgence. En revanche, un vrai état d'urgence permet de mettre hors de tête de nuire des individus qui sont extrêmement dangereux et qui préparent, à l'instant même où nous nous parlons, des attaques contre la France et contre les Français.
Alors, vous dénoncez, vous l'avez évoqué, en particulier le nouveau régime d'assignation à résidence qui, donc, selon vous, n'est pas suffisamment contraignant, au fond.
Oui, on parle de quoi ? On parle d'un régime qui permet aux préfets de limiter, en réalité, les mouvements d'individus particulièrement surveillés. Aujourd'hui, cette assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence, elle est domiciliaire, elle se fait à domicile. Demain, avec le projet de loi du gouvernement, elle serait dans le périmètre de tout Paris. Autant dire que ça ne sert strictement à rien. Prétendre assigner quelqu'un à résidence dans l'ensemble des 20 arrondissements de Paris, ça veut dire concrètement qu'il y a une liberté d'action absolument totale. C'est un très bon exemple d'erreur de ce texte. Il y en a hélas bien d'autres. C'est pour ça que nous, on fait des propositions très précises, très réalistes. socialistes aussi. Moi, je continue à plaider, par exemple, pour qu'on crée un régime de rétention administrative ciblé sur des individus extrêmement dangereux qui ne sont pas en prison aujourd'hui parce que leur dossier n'a pas été judiciarisé, comme on dit, mais dont nous avons la conviction, grâce à des services de renseignement, qu'ils sont dangereux pour la sécurité nationale et qu'il faut donc les mettre hors d'état de nuire. On a besoin de cela pour protéger les Français avec beaucoup de détermination, beaucoup de sérieux. Et l'état d'urgence permet de protéger les libertés. Ça peut paraître paradoxal, mais précisément parce que c'est un état du droit provisoire, transitoire, moi je préfère qu'on renforce l'état d'urgence plutôt qu'on modifie de manière permanente la législation permanente. C'est aussi une différence d'approche dans l'intérêt du respect de nos libertés.
Emmanuel Macron va prononcer aujourd'hui son premier discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République en cette occasion ?
Je plaide pour que la France, par la voix du président de la République, prenne l'initiative d'un nouveau dialogue sur l'immigration entre les pays sources et les pays d'accueil. Très concrètement, je pense que la France aurait intérêt à proposer la négociation dans le cadre des Nations Unies d'un accord cadre entre les pays d'origine et les pays d'accueil pour mieux organiser les flux d'aide publique au développement en les conditionnant à un effort de régulation de l'immigration. Ça veut dire plus de contrôle, ça veut dire plus de lutte contre l'immigration clandestine, ça veut dire aussi l'organisation de flux positifs, s'agissant notamment de la question des étudiants étrangers. Je pense qu'on a intérêt à prendre cette initiative aux Nations Unies, parce que c'est le lieu où, par définition, l'ensemble des pays sources et l'ensemble des pays d'accueil sont présents. Je vais vous donner un exemple très concret. La France, elle verse chaque année aux États du Sahel, Mali, Niger, Mauritanie, environ 500 millions d'euros en aide publique au développement, et puis en prenant aussi en compte le coût de l'opération Barkhane. Je suis absolument persuadé que, dans ce cadre, on est parfaitement légitime, nous, les Français, à souhaiter, par exemple, que le Mali régule mieux ses flux d'immigration, y compris pour des raisons démographiques. Vous avez aujourd'hui 15 millions d'habitants au Mali, vous en aurez 45 millions en 2050. On voit bien qu'il faut qu'on anticipe, qu'on dialogue d'État à État. Et je pense que la France, par la voix du président de la République, s'honorerait à prendre l'initiative au sein des Nations Unies de la préparation d'un nouveau dialogue, un dialogue constructif, un dialogue respectueux, mais un dialogue très franc autour de cette question des migrations, qui évidemment est une question interne. Continentale.
Rapidement, vous avez publié il y a deux semaines une tribune pour défendre l'idée d'une sixième république. Vous n'êtes pas le seul hein, à parler de sixième république, qui en finirait avec l'hyper-présidentialisme. Quel écho a reçu cette initiative dans votre famille politique ?
Je pense, je le dis très directement, que je suis encore très minoritaire au sein de ma famille politique sur cette question qui consiste au fond à regarder en face l'inefficacité de nos institutions. Je pense que la Ve République originelle, celle du général de Gaulle ou de Georges Pompidou, n'est plus vraiment la Ve République d'aujourd'hui, à cause notamment du quinquennat, à cause de la concordance des mandats entre le président de la République et l'Assemblée nationale. Et je pense que nous vivons aujourd'hui, Frédéric Rivière, dans l'illusion de la toute-puissance présidentielle. Un exemple très concret. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle une grogne sociale. On voit qu'il y a une tentation très forte d'un certain nombre d'organisations syndicales d'aller manifester dans la rue. Pourquoi il y a ça ? Eh bien, en partie parce que le débat parlementaire est complètement escamoté. La méthode des ordonnances, la volonté de réduire le débat au Parlement, tout ça fait que le débat démocratique se déporte ailleurs qu'au sein de l'enceinte de l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'on a besoin d'un système sans doute plus équilibré. Bien sûr, il faut un pouvoir exécutif puissant, avec un Premier ministre chef du gouvernement et sans doute un président de la République qui incarne l'État, mais il faut aussi un vrai débat à l'Assemblée nationale qui doit être le lieu de la délibération et de la décision. Autrement, la démocratie, elle n'avance pas, elle se trouve bloquée et c'est la rue qui s'exprime. Et moi, je veux un système démocratique où chacun prend ses responsabilités, mais où le débat démocratique existe.
Merci Guillaume Larrivé, bonne journée.